de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, apprendre l'indonésien, le magazine culturel et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « Le centre de quarantaine agricole de Surabaya fait la promotion du riz konjac en Corée. » Trump demande que le test COVID-19 aux États-Unis soit ralenti. L'Union des Émirats arabes ferme les écoles jusqu'en septembre. L'Arabie saoudite soutient l'Égypte pour protéger la frontière avec la Libye. Les revendications de la Chine dans la vallée de Galwan sont inacceptables, a déclaré l'Inde. Bon, chers auditeurs, voici les journaux en complet. Le centre de quarantaine agricole de Surabaya fait la promotion du riz konjac, au communément appelé riz à faible teneur en calories provenant des tubercules de Porang, de l'innovation de la communauté universitaire de l'Université Brawijaya, Malang, en Corée du Sud, lors de l'exposition Korea International Women's Invention Exposition. Le chef de la quarantaine agricole de Surabaya, Mushafak Fauzi, dans sa déclaration écrite à Surabaya dimanche, a déclaré que son parti apprécie les résultats de l'innovation de la communauté universitaire de l'Université Brawijaya, espérant que la promotion sera couronnée de succès et l'exportation se poursuivra. Selon Mushafak, son bureau est prêt à faciliter les exportations des sous-secteurs des cultures vivrières qui sont connus pour contenir moins de matières grasses que le riz ordinaire, ce qui les rend appropriés pour les consommateurs qui limitent leur consommation de matières grasses ou pour suivre un régime. Le président américain Donald Trump a exhorté l'équipe de traitement du virus corona à ralentir les tests pour trouver des citoyens qui ont contracté le coronavirus, arguant que l'augmentation des tests a conduit à la découverte de plus de cas. C'est ce qu'a déclaré Trump, cité par l'AFP dimanche. Et samedi, Trump a affirmé à plusieurs reprises que la montée subite de la COVID-19 dans plusieurs pays peut s'expliquer par l'augmentation des tests de diagnostic. Les États-Unis, qui comptent plus de décès et de cas que tout autre pays, ont effectué environ 27 millions de tests de dépistage du coronavirus et l'ont classé 26e au monde par habitant. Le taux de mortalité dû à COVID-19 aux États-Unis seulement samedi a augmenté de 568 cas selon les calculs de l'Université Johns Hopkins. C'est le 10e jour que le nombre quotidien de victimes du virus est inférieur à 1000, alors que les États-Unis restent le pays le plus durement touché par une pandémie avec 119 654 décès et pour 2,251,250 cas officiels. Le gouvernement des Émirats arabes unis a annoncé son intention de rouvrir des établissements d'enseignement en septembre prochain. Une décision similaire s'appliquera également à l'ouverture d'autres installations publiques compte tenu des conditions de la pandémie de COVID-19 dans le pays. Il a été déclaré par le ministre de l'Éducation des Émirats arabes unis, Hussein bin Ibrahim al-Hammadi, comme rapporté par Gulf News dimanche dernier. L'ouverture de toutes ces installations se fera également conformément aux exigences sanitaires émises par les autorités. Il a déclaré que l'ouverture des établissements publics et éducatifs dépendrait du développement de la pandémie de COVID-19 sur la base des recommandations des autorités compétentes. Al-Hammadi a déclaré que son agence assurerait la protection et la sécurité des étudiants, des professeurs et des personnels de l'administration lors de la réouverture des établissements d'enseignement. Il a déclaré que le gouvernement désinfecterait les établissements d'enseignement et les modes de transport nationaux conformément aux exigences émises par le ministère de la Santé et de la Prévention en se référant aux instructions de National Emergency and Crisis Management Authority et de l'Organisation mondiale de la santé. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutiennent l'Égypte pour protéger sa frontière avec la Libye. Cela a été dit après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que son pays avait le droit de mener une intervention militaire en Libye. Le gouvernement royal insiste sur le fait que la sécurité de la République arabe d'Égypte fait partie intégrante de la sécurité du royaume d'Arabie saoudite et de tous les pays arabes. Le royaume se tient aux côtés de l'Égypte dans son droit de défendre ses frontières et son peuple contre les tendances extrémistes et les milices terroristes et leurs partisans dans la région. Ainsi, selon le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué cité par Page Al-Arabiya dimanche dernier, le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a également publié une déclaration similaire. Il a dit qu'il soutenait toutes les actions égyptiennes pour assurer la stabilité et la sécurité. Le gouvernement indien a affirmé que les revendications de la Chine sur la vallée de Galwan sont excessives et inacceptables. New Delhi espère que Pékin pourra respecter un accord conclu entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour garantir la sécurité et la paix dans la zone frontalière. Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que ses troupes étaient pleinement conscientes de « line of actual control » et à savoir la frontière de facto avec la Chine le long du Ladakh, y compris la vallée de Galwan. Cela a été dit par le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Anurag Srivastava, cité par la page du Times of India dimanche dernier. Il a souligné que tout le développement réalisé par l'Inde au Ladakh se situait sur son territoire. La déclaration a attiré les commentaires chinois qui disent que les troupes indiennes ont violé le lac et sont entrées sur son territoire. Pékin a revendiqué que l'Inde avait unilatéralement construit des routes et des ponts dans la région lac depuis l'avril. Puis le 6 mai, les troupes indiennes sont dites à travers la frontière pour construire des forteresses et des barricades. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminée.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le gouvernement indonésien reporte la discussion du projet de loi d'idéologie de Pancasila ». Le gouvernement indonésien a annoncé la semaine dernière le report de la discussion du projet de loi sur l'idéologie de Pancasila ou HIP. Le ministre de Coordination des Affaires Politiques, Juridiques et Sécurité, M. Mahfud MD, a déclaré que le gouvernement avait également demandé à la Chambre des représentants, en tant qu'initiateur du projet de loi, d'absorber davantage des aspirations du peuple. Le projet de loi sur l'idéologie de Pancasila a provoqué une polémique publique parce que le projet de loi contient les clauses Trisila et Ekasila dans l'un des articles. Compte tenu du projet de loi, les concepts de Trisila et Ekasila sont contenus dans l'un de l'article. Selon le projet de loi, les concepts de Trisila et Ekasila sont contenus dans l'article 7 avec trois paragraphes. Le paragraphe 1 déclare que le principe caractéristique de Pancasila est la justice et le bien-être social dans un esprit familial qui est une combinaison des principes de divinité, l'humanité, d'unité, de démocratie politique et de l'économie en une seule unité. Au paragraphe 2 est le principe caractéristique de Pancasila et Trisila, à savoir le socio-nationalisme, la sociodémocratie et la divinité culturelle. Le paragraphe 3, Trisila, tel que mentionné au paragraphe 2, est cristallisé à Ekasila, à savoir la coopération mutuelle. La discussion de ce projet de loi est jugée sans urgence et vulnérable au conflit idéologique. Beaucoup de gens estiment que le concept de Pancasila devient Trisila et Ekasila est une forme de trahison de la nation et de l'État. Le gouvernement a plusieurs raisons de reporter la discussion du projet de loi sur l'idéologie de Pancasila, entre autres concernant des aspects de sa substance. Le président Joko Widodo a souligné que le décret de l'Assemblée consultative du peuple, ou TAP MPRS numéro 25 l'année 1966, est toujours valide, contraignant et n'a pas besoin d'être remis en question. Le décret de l'Assemblée consultative du peuple ne peut pas être révoqué par une institution étatique ni par un projet de réglementation déposé par la Chambre des représentants. Le gouvernement considère que la formulation légitime de Pancasila est celle ratifiée par le Comité préparatoire de l'indépendance indonésienne ou PPKI le 18 août 1945. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de discuter de la formulation de nouvelles idéologies en dehors de Pancasila. Serge Mi, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours avec nous, la Voix de l'Indonésie, et vous êtes avec moi, Audrey. Cette fois-ci, je vous présente la rubrique « L'histoire d'aujourd'hui ». On commence tout de suite l'événement du 22 juin 1941. Les troupes allemandes attaquent l'Union soviétique. Chers auditeurs, le 22 juin 1941, plus de 3 millions de soldats allemands, renforcés par 1,5 million de soldats, à savoir des soldats finlandais, roumains, hongrois, italiens, slovaques et croates, ainsi que des contingents espagnols, ont attaqué l'Union soviétique depuis la mer des Balkans au nord jusqu'à la mer Noire au sud. Trois groupes de l'armée allemande ont pénétré profondément dans le territoire soviétique. Des millions de soldats soviétiques ont été encerclés et forcés de se rendre. Les troupes allemandes ont continué d'avancer jusqu'à la périphérie de Moscou en décembre 1941. l'Union soviétique lance une contre-attaque, obligeant l'Allemagne à retirer ses troupes de Moscou. Passons maintenant à l'événement du 22 juin 1945. Accord sur la charte de Jakarta par la commission 9 dirigée par Sukarno. Cher ami, le 22 juin 1945, une session de consensus national sur la base de la République d'Indonésie s'est tenue lors d'une session de l'agence d'enquête pour les efforts préparatoires à l'indépendance de l'Indonésie, BPUPKI. Le consensus national qui soutient et animé la proclamation d'indépendance du 17 août 1945 est contenu dans un texte que Mohamed Yamin a appelé la Charte de Jakarta. La Charte de Jakarta a été élaborée et signée par un petit comité formé par BPUPKI, composé de 9 dirigeants nationaux représentant des nationalités et des groupes islamiques également appelés Comité 9. Ils sont ingénieur Sukarno, Mohamed Atta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Chokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir et Ha'a Salim, et M. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim et Mohamed Yamin. La charte de Jakarta contient un divinité avec l'obligation de pratiquer la charia islamique pour ses adhérents, de une humanité juste et civilisée, 3 unités indonésiennes, 4 légions populaires qui sont dirigées par la sagesse dans la représentation délibérative et 5 justice sociale pour tous les Indonésiens. Au moment de la rédaction de la Constitution à la deuxième session du BPUPKI, la Charte de Jakarta a été érigée en mukaddimah. Par la suite, lors de la ratification de la Constitution de 1945, le 8 août 1945 par le Comité préparatoire de l'indépendance de l'Indonésie, le terme de mukaddimah a été changé pour le préambule de la Constitution. Le premier point contenant l'obligation d'appliquer la loi islamique pour les adhérents a été changé pour le Dieu Tout-Puissant par M. Mohamed Atta. On termine avec l'événement du 22 juin 1945, fin de la bataille d'Okinawa. Chers amis, la bataille d'Okinawa, baptisée Opération Iceberg, est une bataille dans les îles Ryukyu, Okinawa au Japon, qui est enregistrée comme la plus grande attaque amphibie de la guerre du Pacifique, la Seconde Guerre mondiale. La bataille a duré 82 jours, début avril jusqu'au 20 juin 1945. Grâce à une longue campagne de stratégie de saut d'île, les Alliés se sont progressivement approchés de l'archipel japonais. L'île d'Okinawa est la seule grande île du Japon à 340 000. Ou bien 550 km du continent japonais. Okinawa a été planifiée comme la base des opérations aériennes pour une invasion planifiée du Japon continental qui a été codée Opération Downfall. La bataille d'Okinawa a fait le plus de victimes sur le champ de bataille du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon a perdu plus de 100 000 soldats tués, capturés ou suicidés. Les attaques à la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki ont provoqué la capitulation du Japon en quelques semaines seulement après la fin de la bataille d'Okinawa. Chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Lalu tangisi kamu untuk melepas cintamu. Hati pun terluka, sangat perih yang terasa saat kehilangan cinta. Ingatkah saat itu kau bisikan kata cinta yang terindah. Kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengingat wajahmu. Duhai kekasih, kau selalu ada. Cinta yang terindah, kau menjadi kekasih sampai nanti mati. Aku terlalu rapuh untuk mengenang memori-memori indah. Aku terlalu sakit untuk mengenang dirimu. Aku terlalu takut untuk
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, 9 secteurs de l'économie sont ouverts en priorisant des protocoles de santé. Le gouvernement prépare l'ouverture de 9 secteurs économiques dans l'ère de la nouvelle normalité. Les 9 secteurs sont les mines, le pétrole, l'industrie, la construction, les plantations, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la logistique et le transport de marchandises. Le personnel expert du ministère de coordination des affaires économiques, Raden Edi Priyopambudi, dans la discussion sur le thème « Conditions préalables à l'ouverture de 9 secteurs économiques » à Jakarta a déclaré jeudi « La politique de gestion de COVID-19 et la reprise économique sont comme deux côtés de la pièce. Cela signifie qu'elle doit être efficace et aller de pair. » La pandémie de COVID-19 a fait cesser ses activités tout en ayant un impact socio-économique. Et maintenant, le gouvernement doit également rétablir l'économie pour qu'elle fonctionne à nouveau. Il a dit que le secteur économique a été déterminé en mettant l'accent sur les facteurs de santé.
Il calcule également les risques en collectant des données et en voyant les aspects sociaux et sanitaires. En matière de santé, il existe des dispositions qui devraient être appliquées, telles que le maintien de l'hygiène, le port de masque pour empêcher la transmission. Bien que du côté socio-économique, sa partie continue de trouver la façon comment contribuer de manière significative à l'économie. Par exemple, qui absorbe la main-d'œuvre ou a une large association avec d'autres secteurs. De plus, l'ouverture de ces secteurs dépend de l'ouverture de la région non impactée ou à un faible risque du cas de COVID-19 ou la zone verte, afin de ne pas provoquer de nouveaux problèmes dus à la transmission. Raden Edi a également déclaré que le processus de réouverture du secteur économique était la décision médiane préférée. D'un côté, cela empêchera la propagation de ce virus, mais d'un autre côté, rétablira également rapidement les conditions économiques nationales. Pendant ce temps, un économiste qui est également recteur de l'Université Atmajaya, Agustinus Prasetyan Toko, a déclaré « L'Indonésie entre actuellement dans une nouvelle phase. Cette phase nécessite non seulement des questions techniques, mais une sensibilisation et une discipline approfondie. » Cela devient donc la tâche de tous les partis, non seulement du gouvernement, mais de tous les éléments de la société. D'autre part, il rappelle également le changement de comportement dans cette période de la nouvelle normalité pour créer une opportunité économique potentielle. Par exemple, le secteur de la santé a besoin d'équipements de protection individuelle ou créer des médicaments et des vaccins avec les ressources naturelles existantes en Indonésie. Il peut également encourager d'autres produits nationaux sur le marché mondial. Serge Ritor, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Yeah.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans le magazine culturel. Pour ce soir, nous vous présentons Umbul Cokro dans le centre de Java. Dans la langue locale, Umbul signifie lieu de baignade. Ainsi, Umbul Cokro est un lieu de baignade dont l'eau provient de la source d'eau de la rivière Busur. Parce qu'il est situé en ruisseau de la source d'eau de la rivière Busur. L'eau de la piscine Umbul Cokro est claire et propre. Le complexe de baignade est également frais car il est entouré d'arbres ombragés. Cette zone touristique est aussi fraîche. Umbul Cokro est situé dans le village de Cokro, sous-district de Tulung, dans la résidence de Klaten. Son emplacement n'est pas loin de la ville de Klaten. L'emplacement de l'objet touristique a une distance d'environ 15 km au nord de la ville de Solo et peut être accessible en utilisant le transport terrestre. Outre de la piscine, Umbul Cokro est également complété par des installations de divertissement aquatique telles que toboggan aquatique, renat volant, parc aquatique, douche et piscine de jeu. Umbul Cokro fournit également un belvédère pour se reposer après la baignade. Si les visiteurs veulent se sentir à l'aise avec la fraîcheur de l'eau Umbul Cokro, veillez ne pas venir à la fête nationale ou pendant le mois de juin, car la population locale a une tradition annuelle, à savoir padusan. Padusan est le moyen pour les populations locales de prendre un bain, de se nettoyer ou de se purifier avant le mois de Ramadan. Les gens se réuniront à Umbul ou à la source d'eau pour prendre un bain. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Umbul Cokro dans le centre de Java. Nous nous rencontrons demain avec le sujet plus intéressant encore. Merci de votre attention. À bientôt.
mengajari cinta itu sadari mencari sang sejati dan juga suci.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est terima kasih. Terima kasih ou en français merci. Bonne étude. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est terima kasih. Terima kasih. Ou en français, merci. À la pension de famille, Kevin remercie à Monsieur Imran qui l'a aidé de trouver la pension de famille.
Kita sudah sampai di tempat kos Anda.
Terima kasih, Pak, sudah mencari tempat kos untuk saya.
Sama-sama.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Terima kasih. Je répète. Terima kasih, qui signifie merci. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Kita sudah sampai di tempat kos Anda. Kita sudah sampai di tempat kos Anda. En français, nous sommes déjà arrivés à ta pension de famille. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Bapak sudah mencari kos untuk saya. Bapak sudah mencari kos untuk saya. En français, monsieur, tu m'as aidé de trouver la pension de famille. Sama-sama. Sama-sama, en français, de rien. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali, en français, je vous en prie. Dans le dialogue, Kevin a remercié à Monsieur Imran. Il dit terima kasih. Terima kasih, qui signifie merci. Après ça, Kevin a expliqué la raison pour laquelle il lui remerciait. Bapak sudah mencari tempat kos untuk saya. Bapak sudah mencari tempat kos untuk saya. Qui signifie, monsieur, tu m'as aidé de trouver la pension de famille. La suite, monsieur Imran répond à Kevin, sama-sama. Sama-sama, qui signifie de rien. en plus d'expression sama-sama, sama-sama, qui signifie de rien, pour répondre à quelqu'un qui vous remercie, vous pouvez dire terima kasih kembali. Terima kasih kembali, qui signifie je vous en prie. En situation formelle, vous pouvez remercier à quelqu'un en disant saya berterima kasih atas bantuan Anda. Saya berterima kasih atas bantuan Anda. Ou bien, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. En français, je vous remercie de votre aide. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation.
Kita sudah sampai di tempat kos Anda.
Terima kasih, Pak, sudah mencari tempat kos untuk saya.
Sama-sama.
Bon, chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à tous. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Vous êtes avec moi, Audrey. Cette fois, vous allez écouter une chanson croncong intitulée Nusantara Kondang Kaloka. Cette chanson a été créée par Budiman Beje. Cette chanson dépeint la beauté de la terre indonésienne qui invite à l'admiration et de nombreux touristes viennent la visiter. La beauté de la célèbre patrie est comparée à une série de décorations, de coupures de belles filles. Par conséquent, il est très approprié d'être reconnaissant et de préserver la beauté naturelle de l'Indonésie étant durable. Mon cher auditeur, voici la chanson croncong intitulée Nusantara Kondang Kaloka, chanté par Rafika Duri. Bonne écoute.
Of Indonesia.
Mega mendung di angkasa, hembusan bayu dingin terasa. Gerimis berderai di merata, bagai mutiara. rahmat dibawa bersama. Limpahannya meresap di jiwa. Ada kala bahagia terasa, meskipun duka nestapa. Tika hujan turun, sayu mendayu lagu keroncong. Merdu irama di alun bersama.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Au revoir.